Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
La saison des mariages se termine progressivement, les nouveaux mariés sont rentrés de leur voyage de noces, la vie quotidienne reprend son cours avec un nouveau rythme, celui d'une vie à deux. Comment s'aimer jour après jour malgré les immanquables crises? Comment rester fidèle à son sacrement de mariage? Quelle vie spirituelle tissée à deux? Regard d'un prêtre parisien de passage dans notre région qui accompagne des couples depuis 35 ans. Puisque vous avez décidé de vous aimer, conseil pour les premières années de mariage, c'est le titre du deuxième ouvrage du père François Potet. Bonjour père.
Bonjour.
À l'occasion d'une retraite que vous prêchez au village de François, vous avez la gentillesse de passer par les studios de Radio Présence. Merci beaucoup. Vous vous adressez, père François Potet, aux jeunes couples, ceux qui viennent de se marier, mais vos conseils sont aussi précieux pour tous les couples, afin de les encourager et, dites-vous, les admirer. Pourquoi avez-vous cette admiration?
Ah, j'ai une admiration. L'amour, c'est une aventure. L'amour, c'est une aventure et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui se lancent dans cette aventure. Parce qu'il faut du courage. Je dis souvent, l'amour demande du courage. D'abord pour se lancer et puis après pour persévérer.
Mmh. Alors vous dites que l'amour est une aventure. Vous dites aussi dans votre ouvrage que l'amour est une décision, c'est un engagement. Qu'est-ce qu'elle implique, cette décision?
C'est une décision de se donner. Je crois au fond... C'est à rebours complètement de notre société d'aujourd'hui qui est complètement auto-centrée, enfin, qui est très individualiste, très centrée sur soi-même. Et alors que le mariage, l'amour au fond, c'est se donner. Et la personne humaine n'a de sens, ma vie n'a de sens que quand elle est donnée. Saint Jean-Paul II va jusqu'à dire qu'on est une personne humaine quand on entre dans le don réciproque de soi. Et en dehors de ce don, eh ben, la vie n'a plus de sens. Et donner sa vie, c'est... Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Donc c'est le don qui fait le sens. Mais donner, c'est une décision. Donner, c'est une décision. Il y a un sentiment amoureux, il y a des passions amoureuses, il y a des émotions amoureuses. Mais l'amour qui fonde un mariage, l'amour qui est le véritable amour qui touche à la charité quand on est chrétien, c'est une décision, c'est un engagement.
Ça n'est pas acquis.
Ah non, ça n'est pas acquis, c'est quelque chose qui se creuse. Et puis, il y a un point de départ. Aujourd'hui, après avoir réfléchi, après avoir prié, je décide. Je n'ai plus d'autre bonheur que le tien. Je n'ai plus d'autre... Le sens de ma vie, c'est de me donner à toi. Et ça devient... C'est ma vie, désormais. Et ça, c'est une décision, c'est un point de départ. Il y a un engagement, vraiment.
Mmh. Et je me donne à toi, c'est ce que les époux disent.
Absolument,
quand ils s'échangent le consentement.
C'est la formule même du sacrement. Je te reçois comme époux, je me donne à toi. Je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Et donc, il y a ce don réciproque de soi, et qui se traduira évidemment par le don de la chair, par le don des corps, qui sera le geste ultime qui manifeste ce don. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce geste des corps, le don des corps, n'a de sens profond que dans le mariage, parce que ça suppose cet engagement, ça suppose ce don. Mmh.
Vous dites qu'il y a une mauvaise question que les époux peuvent avoir la tentation de se poser, notamment quand ça ne va pas. C'est, est-ce que je l'aime ou pas?
Ben oui.
Pourquoi c'est une mauvaise question?
D'abord parce que... Chaque fois qu'on revient sur soi pour se poser une question, on est dans le mauvais sens. Vous voyez, très facilement, on s'interroge soi-même, on se parle à soi-même. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais penser ci, tu devrais pas faire ça. On appelle ça parler à son chapeau. Et moi, je dis, il faut pas parler à son chapeau, il faut parler à un vis-à-vis. C'est exactement ce que le démon cherche à faire, pas tout le temps. Il cherche à nous replier sur nous-mêmes, il cherche à nous renverser. Et à nous retourner vers notre nombril. Et en réalité, c'est pas moi que je dois interroger, c'est toi. Et la question n'est pas « est-ce que je t'aime ?» La question c'est « j'ai choisi de t'aimer, je veux t'aimer. » Alors, je te demande pardon parce que je n'y arrive pas bien. Je ne suis pas toujours fidèle à ce don que j'ai décidé. Mais est-ce que toi, tu te laisses aimer? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Pour aimer, en réalité, il faut se laisser aimer. Vous savez, cette réflexion qu'on entend parfois dans des crises, des scènes de ménage. Mais mon chéri, je t'aime. Oui, je sais que tu m'aimes, mais toi, tu ne te laisses pas aimer. Moi, je ne peux pas t'aimer. Tu ne me laisses aucune place. Oui, je sais bien que tu m'aimes, mais tu m'étouffes. Et ça, il faut qu'on en parle. Alors, si on pouvait en parler calmement, plutôt que de s'engueuler, ce serait mieux. Mais au fond, je crois même, je vais assez loin, mais je crois qu'au fond du fond, aimer, c'est se laisser aimer. Se laisser aimer, c'est vraiment la clé. Le véritable amour, c'est de se laisser toucher. Vous voyez, que, si je regarde le Christ, dans l'Ancien Testament, on savait déjà que Dieu était amour, que Dieu aimait. On savait déjà que Dieu était un père, que Dieu aimait infiniment, que Dieu était miséricorde et tout ça, tendresse et pitié, bon, lent à la colère et plein d'amour. Mais il y a une chose qu'on a découvert avec le Christ, qu'on ne savait pas, c'est que Dieu se laisse aimer, comme un bébé dans une crèche, comme
dans sa vulnérabilité extrême,
il se laisse aimer, cloué sur une croix. Et devant la croix, je peux le mépriser ou je peux me laisser moi-même attirer. Ça change tout.
Ah oui, ça change tout. Père François Potet, vous abordez de nombreuses thématiques dans votre ouvrage, les différences entre l'homme et la femme, la sexualité, la parentalité, les crises. J'aimerais que nous parlions de la fidélité, souvent difficile à tenir et dont le non-respect est source évidemment de souffrance et de division. La fidélité trouve son essence dans l'un des quatre piliers du mariage, l'indissolubilité. Quelle est-elle, cette indissolubilité?
Alors là, il faut renverser les choses qui sont très souvent construites à l'envers. Pour la plupart, quand on pose la question sans réfléchir, on dit l'indissolubilité, finalement, c'est une contrainte que l'Église impose. Et on regarde l'indissolubilité comme attention, hein, dans l'Église, on n'a pas le droit de divorcer. Et c'est épouvantable, parce que c'est l'indissolubilité, c'est pas ça. L'indissolubilité, c'est un don de Dieu dans le sacrement de mariage. C'est une grâce du sacrement de mariage. Et donc, Dieu dit, je sais ton inconstance, je sais ta fragilité. Je sais même ta peur, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Donc je sais que le pour toujours te fait peur, je sais, tout ça je le sais. Mais moi je te donne cette infaillibilité, moi je te donne cette indissolubilité, parce que moi je suis fidèle, moi je me donne jusqu'au bout, je te donne ma vie et je la donne jusqu'au bout, je meurs pour toi. Et donc tu peux t'appuyer sur moi. Et de fait, le sacrement il est fondé sur le Christ, c'est le roc. Et je m'appuie sur lui, et si on regardait ça, vous voyez, quand on a des grandes difficultés de couple, des couples qui traversent des grandes épreuves, très rapidement, le divorce va entrer dans le champ des possibles, parce qu'il est complètement banalisé aujourd'hui.
Et il est parfois déjà dans le champ des possibles, avant même le consentement.
Il y en a beaucoup qui se marient en se disant, mon Dieu, pourvu que ça marche. Mais ça marchera parce que j'ai décidé que ça marchera. Oui. C'est dans le point de départ. Bon, et ce point de départ, c'est le don de Dieu. Et une fois que le divorce est dans le champ des possibles, il va s'imposer comme la solution de facilité dans les grandes difficultés. C'est beaucoup plus facile de divorcer que de s'engueuler et de dépasser.
Et de se rabibocher, surtout peut-être.
Et de reconstruire, de repartir et de pardonner. Mais c'est pour ça que si on s'accrochait réellement à la grâce du sacrement, je suis persuadé qu'on serait... C'est le travail de l'Esprit-Saint, c'est la grâce qui nous sauve. Et précisément, c'est pour ça qu'il y a un sacrement. C'est que, humainement, à cause du péché, c'est plus possible. Le mariage civil, bon, si avec une vie très pépère, plan-plan, comme je dis souvent, à 130 sur l'autoroute, avec un bon 4x4, hein, ça va marcher. Mais aller sur les petites routes avec des nids de poules, avec une bagnole un peu branlante, on va se foutre dans le fossé. Bon, et donc, c'est s'appuyer sur la grâce du sacrement. Humainement, non, j'y crois pas. Humainement, aujourd'hui... Autrefois, encore, il y a quelques générations, quand toute la société était structurée sur la famille, bon, alors c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des dérapages dans le fossé. Dieu sait, c'était pas toujours très joli non plus. Mais la structure de la société fondamentale était la famille. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de structure, mais là, tout est déstructuré, avec des gens qui s'emploient, des ministres et d'autres, qui s'emploient à déconstruire savamment la famille et tous les repères. Et donc, dans cette espèce de champ de mine, ce qui demeure, et c'est le point de repère absolu, c'est le sacrement, c'est la grâce du sacrement. Le sacrement, Dieu donne ce qu'il fait. Enfin, Dieu permet quelque chose qui est surnaturel, qui n'est pas naturel.
Parce que Dieu s'engage, avec les époux.
Absolument. On demande souvent aux époux, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier à l'église ? Et alors, il y en a beaucoup qui répondent, on voudrait se marier devant Dieu. Ben, alors, mettez un crucifix sur le mur, puis vous faites ça devant Dieu. Mais ce n'est pas du tout ça, le sacrement. Le sacrement, c'est vous mariez pas devant lui, en lui, et lui en vous. On dit même souvent c'est un mariage à trois, mais je n'aime pas beaucoup dire ça, parce qu'on n'est pas trois, c'est lui, nous sommes en lui. C'est notre fondement, c'est notre je dis très souvent aux mariés le jour du mariage, et même presque à chaque fois, vous êtes entrés dans cette église liée par un amour humain, vous allez quitter cette église liée par un amour divin. Et ça change tout.
Oui.
Vous êtes lié aujourd'hui par un amour naturel. Vous allez quitter cette église liée par un amour surnaturel et qui est tout puissant, enfin qui peut dépasser tout.
Oui. Votre mère vous disait quand vous étiez plus jeune, il faut accepter d'aimer à fond perdu. Ah, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça m'a beaucoup impressionné ça quand elle m'a dit ça. C'était après la mort de mon père, bien après. Et elle m'a dit ça un jour, on parlait de la fidélité, on parlait du mariage et de l'amour en général. Et elle a eu cette formule qui m'a beaucoup touché. Oui, tu sais, il faut accepter d'aimer à fond perdu. Aimer à fond perdu, ça veut dire sans plus rien attendre d'autre que le fait que j'aime. Vous voyez, quand on est jeune, quand on s'aime, on en attend quand même quelque chose. Et heureusement d'ailleurs,
il y a un retour.
C'est bon d'aimer, c'est doux d'aimer, c'est agréable. Mais petit à petit, ce côté agréable et doux peut disparaître. Et jusqu'à devenir quelque chose de rude, quelque chose de rigueux, quelque chose de difficile, douloureux. Et ce qui est douloureux dans ces périodes-là, c'est que je n'attends plus rien d'autre que cette certitude que moi, j'ai décidé d'aimer. Vous voyez, et alors, moi tout seul, j'y arriverai pas, mais moi, avec la grâce de Dieu, aimer à fond perdu, c'est-à-dire... Je donne, même si ça n'est pas reçu, même si... Vous voyez, Dieu est amour, il aime le pécheur, il aime même les traîtres, il aime... Il continue d'aimer Satan. On n'y pense pas à ça. Mmh. Satan déteste Dieu et le trahit, enfin, d'une trahison ontologique, mais Dieu continue de l'aimer. Dieu ne peut pas ne pas aimer ce qu'il a créé. C'est d'ailleurs un mystère incroyable. Mais Dieu aime, Dieu est amour, il ne sait rien faire d'autre. Donc Dieu n'attend rien, son amour est parfaitement gratuit, à fond perdu, c'est-à-dire c'est dans la gratuité totale.
Oui, est-ce que ça veut dire que les époux doivent entrer petit à petit, tout au long de leur vie conjugale, dans cette gratuité ?
Oui.
Mais
oui.
Comment ? C'est pas forcément évident.
En acceptant peu à peu de se détacher de soi-même, et justement, plus je me donne, et plus mon amour est gratuit. Et il y a certainement une progression dans l'amour conjugal, qui, au début, on le sait un peu théoriquement, mais petit à petit, on progresse. D'ailleurs, moi, je dirais, dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée, c'est la même chose. Dans toute vie, peu à peu, on apprend à donner pour donner, et point.
Et à se détacher de
soi-même. Mais on comprend bien que c'est pas quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on décide, mais c'est pas acquis en un jour. C'est l'œuvre d'une vie. C'est jusqu'à, finalement, j'aimerais bien pouvoir mourir... En disant Seigneur, Père, entre tes mains je remets mon esprit, c'est mon but, c'est mon espérance, et je voudrais qu'on ne me vole pas ce moment de ma mort, qui sera le dernier moment où je pourrai enfin dire Seigneur, ma vie est à toi, je te la remets.
Oui, dans un don ultime.
Oui.
Oui. Alors, vous avez évoqué cette facilité, en tout cas cette banalisation du divorce. Comment y résister ? Est-ce que vous auriez quelques clés à donner aux couples qui nous écoutent aujourd'hui ?
Moi, je dirais la première clé, c'est que le divorce n'entre pas
dans le champ des possibles.
Dans le champ des possibles pour moi. Je me souviens d'une dame qui venait me voir que je connaissais un peu, surtout par ses enfants. Et c'était le moment où les enfants avaient quitté la maison, elle se retrouvait avec son mari, cette période souvent difficile pour les couples, hein, où il faut reconstruire quelque chose de neuf. Et alors elle vient me voir en me disant, vous savez mon père, je crois qu'on va divorcer parce qu'on n'a plus rien à se dire, maintenant on a fait ce qu'il fallait, on est resté ensemble parce qu'il y avait les enfants, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez, c'est fini. Alors je lui dis, madame, je suis désolé, mais ça, j'ai pas ça dans mon pressbook. Moi,
je veux bien vous aider.
J'ai pas ça dans le catalogue. Oui. Je veux bien vous aider toutes mes forces et tout mon cœur pour vous aider à reconstruire. Et je vous garantis que si vous êtes prête à le faire, et si votre mari accepte de venir aussi, on va repréparer le mariage, on va recélébrer le mariage, et puis on va repartir pour une nouvelle vie. Mais ça demande un effort, ça demande une décision qu'on reprend, et puis on va construire. Le lendemain. J'avais dans ma boîte aux lettres un petit mot en disant, mon père, j'étais venu vous parler de rupture, vous m'avez parlé d'avenir, je vous remercie. Et puis ils sont venus tous les deux, on a refait vraiment une préparation de mariage, on a retravaillé, et quelques mois plus tard, on a recélébré le mariage avec deux, trois témoins qu'ils avaient magnifique. Retrouvés, et ils sont repartis en voyage de noces. C'est magnifique. Et le divorce, non, ça n'est pas une solution. Peut-être que au lieu de se détruire, si jamais on arrive à des extrémités épouvantables, qu'il y a une violence, qu'il y a une manifestement quelque chose qui détruit une personne, là on n'a pas le droit de se laisser détruire. Peut-être qu'on sera obligé de s'interroger, même pour savoir si est-ce que le sacrement était vraiment valide.
Oui.
Et je pense que c'est une charité même que l'Église doit aux époux de vérifier que leur mariage était. Pourquoi continuer à se battre si le sacrement n'était pas valide, si le sacrement n'était pas un sacrement? Alors à ce moment-là, ben, il faut le dire et il faut que l'Église le reconnaisse. Mais le sacrement, c'est indissoluble dans la mesure où c'est un sacrement, précisément. Mm-hmm. Bon. Mais avant d'arriver à cette extrémité, qui n'est pas à chaque fois, il y a une certitude, c'est que mon mariage tient. Et c'est par la force du sacrement que je tiens. Donc le divorce n'est pas une solution. D'abord, le divorce ne résout rien. Le divorce, pour les enfants, c'est une catastrophe. Qu'ils aient 2 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est une catastrophe. Moi, je vois bien les dégâts sur des jeunes qui ont tellement de peine à s'engager déjà dans le monde, mais qui en plus ont subi le divorce de leurs parents et qui en payent très 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 cher les pots cassés. Donc, quand on me dit « Non, non, ça se passe très bien pour les enfants et tout ça », mais c'est pas vrai, c'est toujours un drame épouvantable. Et ça ne résout rien. La plupart du temps, quand on divorce, je veux dire ça délicatement parce que je connais tellement de souffrances dans ces domaines, mais c'est pas la garantie qu'on va retrouver mieux après. Mmh. De fait, des mariages qui ont été faits trop, trop vite, trop tôt, avec des personnes qui n'étaient pas mûres, Le manque de maturité est une très très grande proportion. L'immense majorité des sacrements qui sont reconnus invalides, c'est par manque de maturité. On ne savait pas ce qu'on faisait.
Oui.
On n'avait pas préparé correctement.
Oui.
On s'est lancé sans savoir. On s'aimait, ben oui, mais on n'a pas vraiment décidé de s'aimer.
Oui,
et là, il y a un vrai manque dans la préparation.
Mmh. Vous dites que pour résister à cette banalisation du divorce, il faut s'appuyer sur la Vierge Marie. Pourquoi ?
Parce que la Vierge Marie, c'est elle qui tient jusqu'au bout. Et c'est elle qui tient jusqu'au calvaire. Elle tient, oui, elle est debout au calvaire. Elle pleure, mais elle est debout. Et elle est celle qui nous aide à aller au bout du don. C'est elle qui va jusqu'au bout du don. Hein, avec. C'est-à-dire, elle est vraiment celle qui reçoit le don du Christ et qui, elle le reçoit en se donnant elle-même. Elle est vide d'elle-même. Vous savez, quand on parle de personnes qui sont pleines d'elles-mêmes, on voit tout ce que c'est. Elles sont incapables d'aimer. Marie, elle est vide d'elle-même. Elle est pleine de l'Esprit-Saint, pleine de grâce. Elle est notre modèle absolu dans ce domaine, comme dans tous les autres d'ailleurs. Mais...
Oui. Et puis elle ne s'est pas découragée, parce qu'elle aurait pu ne pas être au pied de la croix,
absolument,
et se mettre à l'abri se protéger. Oui.
Vous savez, plus forte qu'une armée rangée en bataille. Hein. Et l'amour est fort, fort comme la mort. Et elle est vraiment la mère du bel amour, comme on l'appelle. Hein.
C'est c'est ça, la mère du bel amour. Et on entend souvent des époux dire qu'ils ont perdu leur liberté en se mariant. Et c'est surtout parfois les hommes qui parlent de ça.
Ah,
qu'est-ce que la liberté dans le mariage?
La liberté, c'est dire oui. La liberté, l'homme libre est celui qui dit oui. Je crois vraiment qu'on devient libre le jour où on dit « oui, je veux ». d'un je veux qui... Je m'engage tout entier dans ce oui. Parce que la liberté, justement, c'est se donner soi-même. Et c'est ça qui est vraiment la manifestation de ma liberté. Vous allez vous mettre la corde au cou, mais c'est... Bon, l'expression, elle est jolie, mais elle est drôle. Mais c'est le contraire qui est vrai. Le célibataire, d'ailleurs, le célibataire en souffre énormément. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas libéré. Il y a quelque chose... Vous voyez, là aussi, il faut être infiniment délicat, parce que Dieu sait qu'il y a des personnes qui souffrent de leur célibat. Mais il y a quelque chose, justement, qui n'est pas libéré. Il y a on aimerait tellement pouvoir aimer, on aimerait tellement pouvoir être aimé. Il y a quelque chose qui n'est pas libéré et la liberté, c'est justement ce permise dans ce don réciproque. Et donc le mariage, le oui de l'amour rend libre, ça j'en suis convaincu. Oui. Je crois que toute
éducation... Et chaque petit oui finalement rend de plus en plus libre. Oui.
Qu'est-ce que je disais ? Pardon, j'ai perdu le fil.
Sur la liberté.
La liberté. Oui, le Christ, dans l'Écriture, saint Paul parle du Christ comme... Le Christ, c'est l'amen de Dieu. Amen, c'est oui, je veux, je m'engage. Le amen est très riche, c'est un mot
c'est du solide, je crois.
C'est très solide, ouais. Je crois, je décide, je choisis. Bon, le Christ, c'est l'amen de Dieu. C'est-à-dire, il est la manifestation du oui de Dieu, du oui d'amour de Dieu. Et moi, je dis à toi, Jules, est-ce que tu seras l'amen de Julie ? Et toi, Julie, et vous, Julie, est-ce que vous serez l'amen de Jules ? Et le oui réciproque. Toute l'éducation consiste à aider un garçon ou une fille à parvenir au moment de sa vie où il pourra dire « oui, je veux ». D'un « je veux » qui engage une vie. Et là, ça y est, on touche pas à la liberté absolue, ça n'existe pas. Mais on peut estimer que la liberté est suffisante pour aller.
François Potier, je vous propose de marquer déjà une pause. Nous écoutons « La vie à deux » interprétée par « Enfant du Père ».
Il y a bien des joies éprouvées par tous ceux qui un jour ont uni leur vie devant Dieu. Mais il est un bonheur de loin inégal, c'est d'avoir Jésus-Christ pour chef dans son foyer. Quelle est belle la vie à deux, quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Mais il est des foyers brisés, déchirés. Il nous faut constamment veiller et prier. Des armes de Dieu revêtons-nous afin de pouvoir résister et tenir ferme jusqu'au bout après avoir tout surmonté. Quelle est belle la vie à deux quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu. Foyer rempli d'amour donne envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Quelle est belle la demeure d'un foyer uni par Dieu. Quelle est douce la chaleur d'un foyer où règne Dieu. Que ce foyer soit pour tous ceux qui vivent dans la nuit une lumière en feu qui réchauffe et réjouit. de servir et d'aimer Dieu, main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Avec le père François Potet, prêtre du diocèse de Paris et de passage à Toulouse pour prêcher une retraite au village de François, nous parlons de la vie conjugale. Juste avant cette pause musicale, nous parlions de la liberté et je voudrais continuer sur ce sujet, père François, pour vous demander ce que vous pensez des concessions. On dit que dans le mariage, il faut faire des concessions. Est-ce que pour vous, c'est une preuve de liberté ?
C'est le contraire, à mon avis. C'est un piège terrible. Tout le monde dit, tout le monde vous dira, il faut bien faire des concessions dans l'amour. Et moi, je dis jamais, jamais, jamais de concessions. Jamais de concessions. Je raconte cette histoire. Tous ceux qui ont préparé le mariage avec moi connaissent les jeunes mariés s'installent pour la première fois. Et puis lui, sur le dessus de sa cantine numéro 1, il a un objet qui est indéfinissable, mais qui représente pour lui toute sa famille. Il le tient de son grand-père, qui le tenait enfin, il y a toute une histoire. Et puis, il met cet objet à la première place dans le salon, la place numéro 1. Et puis, elle voit ça et dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors, gloups, mais ma chérie, c'est pas un truc, c'est mon histoire. Mais il n'arrive pas à le dire tellement c'est important pour lui. Ouais. Et puis, il comprend qu'elle ne comprend pas, alors il fait une concession, et il se dit, zut, je savais qu'il fallait faire des concessions, mais je ne savais pas que ça viendrait si vite. Et puis, il met ce truc à la place numéro 2. Et puis, elle lui dit, mais mon chéri, tu n'as pas compris, il n'en est pas question. Et alors, de concession en concession, le truc se retrouve entre deux, dans l'escalier, comme ça, un peu de guingois. Et à force de faire des concessions, matin, midi et soir, il passe devant ce machin-là. Et il se tasse. Alors, au début, il dit « Oh, je t'aime quand même. » Bon, le quand même dramatique dans l'amour, oui. Le quand même meurtrier. Et puis, un beau jour, ça pète. Parce que, vous savez, ça s'use, les enfants sont malades, la bagnole est en panne, le patron nous emmerde, la belle-mère, j'en parle pas, etc. etc. Bon, et puis, un beau jour, ça pète. Et de toute manière, tu n'as jamais accédé à ma famille, tu n'as jamais voulu comprendre. Et la preuve, tu vois, ce machin-là qui est pour moi tellement important, tu n'as jamais compris. Bon, et paf,
ça ressort.
Une explosion. Quelquefois, ouais. Des explosions qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être mortelles. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ?
Oui.
Il fallait d'abord qu'il prenne le temps de réfléchir et de prier. Et ma chérie, je suis très étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ta réaction. Mais laisse-moi une nuit, il faut que je prie, il faut que je prenne le temps. Bon. Et puis, le lendemain, il dit à sa femme, ma chérie, j'ai pris une décision. Cet objet qui est tellement important pour moi, je comprends que tu ne comprends pas, mais c'est tellement important pour moi, je décide qu'il sera là dans l'escalier.
Oui. Et en fait, c'est ça.
C'est un acte d'amour.
Oui.
Ce sera le trophée de l'amour que j'ai pour toi. Et matin, midi et soir, il passe devant ce machin-là. Et matin, midi et soir, cet objet lui rappelle, ah, c'est pour ça que je t'aime. Et c'est pour me rappeler que j'ai décidé de t'aimer. Oui, je t'aime, et pas quand même, je t'aime, tout court.
Oui.
Et vous voyez, la concession nous tasse et va finir par entraver ma liberté. Alors que l'acte d'amour, c'est ma liberté réactualisée chaque jour. C'est ma liberté qui est un oui chaque jour, qui s'impose à moi et qui me renouvelle dans la liberté. Mmh. Donc ma liberté augmente par les actes d'amour. Alors que avec les concessions, ma liberté diminue.
Oui, parce qu'elles ne sont pas vécues librement.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Vous avez cette très belle expression dans votre ouvrage, Père François Potet, la grâce de l'obéissance.
Ah, la grâce de l'obéissance, oui.
Comment l'obéissance s'articule-t-elle avec la liberté de chacun
aussi,
des conjoints ?
Là aussi, c'est évidemment, on est tellement à rebrousse-poil de notre monde en disant des choses comme ça, mais je pense que c'est très très important parce que, au fond, le démon a réussi à nous faire croire, c'est ça l'origine du péché, le démon a réussi à nous faire croire que nous serions libres quand nous serions indépendants. Vous voyez, on voudrait à tout prix être indépendant, mais je ne veux dépendre de personne. Vous savez, la grand-mère qui dit, mais mes enfants, je ne veux pas vous embêter, je ne veux pas... vous savez, mais maman, tu nous embêteras beaucoup moins si tu te laisses faire. Laisse-toi faire, maman. C'est difficile de se laisser faire.
Eh oui.
Hein, Mais c'est ça la vraie liberté, justement. C'est ça l'obéissance. Il faut obéir à un autre. Obéir à un autre, c'est-à-dire se laisser conduire. Au fond, l'homme a voulu se conduire lui-même, il s'est cassé la gueule. Et il s'est planté gravement. Et il a désobéi à Dieu. Il a quitté la présence de Dieu. Bon. Et toute l'affaire va être de redécouvrir l'obéissance, mais une obéissance d'amour. Au fond, l'amour est une dépendance radicale. Le jour où l'époux ne dépend plus de son épouse, ou l'épouse ne dépend plus de son époux, ils ne sont plus mariés, ils sont au mieux concubins ensemble, dans une vie un peu confortable.
Colocataire.
Mmh. Mais l'amour, c'est une dépendance d'amour, mais c'est la source de ma liberté. Et cette dépendance, au fond, c'est une obéissance radicale. Oui, je te dois obéissance, et nous devons obéissance réciproque. Mais c'est une obéissance qui nous libère justement de notre moi, qui nous libère de notre ego, qui nous libère de notre prison intérieure. Et toujours cette idée du don, il faut sortir de soi, il faut se vider de soi-même. Et ça, il y a du travail, hein. On se rend bien compte qu'il y a du travail.
Oui, est-ce que c'est cette soumission dont parle saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, un mot qui quand même ne nous fait pas toujours plaisir.
Qui fait sursauter aujourd'hui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on dit toujours « Femmes, soyez soumises à vos maris », on oublie toujours la phrase d'après « Et vous, les maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église », c'est-à-dire en se donnant jusqu'au bout. Et si, vous voyez, je ne peux pas regarder l'un sans regarder l'autre. De fait, l'homme est une puissance de don. De fait, l'homme, c'est celui qui se donne. C'est l'homme masculin, c'est celui qui se donne. C'est celui qui il a l'initiative du don, c'est vrai. Et il est vers l'avant, il est vers le faire. La femme, c'est tout l'inverse. Elle est une puissance d'accueil. Elle est vers l'intérieur, elle est vers le dedans. Elle suscite le don. Et en ça, elle est soumise à son mari, c'est-à-dire elle sous-tend la mission du mari, elle suscite le don. Et quand le couple parfait, dans l'ordre mystique, bien sûr, il faut faire attention de respecter l'analogie là où elle est, mais Marie et Jésus, Marie, c'est celle qui accueille le don du Christ, qui est le nouvel époux, l'époux de l'Église, elle représente l'Église à elle toute seule au moment du calvaire. Et le Christ se donne et se donne jusqu'au bout parce que sa mère est là pour recevoir le don. Marie, nouvelle Ève, Jésus, nouvel Adam. Et il y a une obéissance radicale entre les deux. Et le Christ remet la souveraineté à Marie qui est souveraine et reine de l'univers. Donc le Christ remet même son pouvoir dans les mains de sa mère parce qu'elle est celle qui obéit parfaitement. Et il a regardé l'humilité de sa servante. Je suis la servante du Seigneur et qu'il me soit fait comme tu as dit. Donc il y a une obéissance radicale. L'obéissance fait peur aujourd'hui. Parce que l'obéissance, on pense à l'obéissance de l'adjudant. Enfin, j'ai rien contre les adjudants. Hein, mais l'obéissance un peu servile qui nous enferme. Mais c'est tout autre chose. C'est, j'obéis à une autorité. L'autorité, c'est une autorité d'amour. Et c'est ça qui me libère de moi-même. C'est toujours la même histoire. Il faut se libérer de soi-même. C'est moi qui suis gênant pour moi-même. Et donc, il faut que je me libère. Et je crois que dans le mariage... Il y a une obéissance très, très douce, très délicieuse, l'obéissance qui consiste à dire « Ma chérie, c'est toi qui passes devant, c'est toi qui... » Et réciproquement, bien sûr, c'est très beau. Ça. Oui. Oui, c'est une grâce, l'obéissance.
C'est une grâce, oui.
C'est une grâce parce que c'est un don de Dieu aussi. Là aussi, c'est le Christ qui est obéissant jusqu'à la mort, dit saint Paul, et c'est lui qui me donne sa propre obéissance. Et c'est l'Esprit Saint qui la porte en moi.
Mmh. Vous écrivez aussi, Père François Potier, l'époux est principe et l'épouse est le Verbe. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cela.
C'est pas facile ça. C'est pas facile, mais c'est tellement beau. Je vais essayer d'être synthétique parce que quand je regarde la Sainte Trinité, le Père est principe, c'est-à-dire le Père est au commencement de tout. Au commencement, ça ne veut pas dire que le Fils est après, puisqu'ils sont tous les trois égaux. Tous les trois dieux, trois personnes divines. Mais de fait, tout amour vient du Père, dit saint Paul. Hein. Il y a, tout don parfait vient de Dieu, Dieu le Père. Ça, c'est l'amour qui se donne. Le Christ, c'est celui qui manifeste ce don. C'est celui qui... Il est le Verbe dans la mesure où il dit son Père. Et quand Jésus va dire « Qui me voit le Père. » Et tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc je ne connais Dieu le Père, que par le Fils. Et c'est le Fils qui est parole de Dieu. Parole, c'est un mot qui est trop vague, mais le Verbe dit plus, mais je n'ai pas le temps de détailler évidemment ici. Le Christ, il est le Verbe du Père dans la mesure où il manifeste, il fait connaître le Père. Bon. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui, en nous, réalise ce lien, l'amour qui est échangé entre le Père et le Fils. Bon. Mais le Fils et le Verbe du Père, on retrouve ça d'ailleurs dans le Christ et l'Église. C'est oui. L'Église qui fait connaître le Christ.
Oui, c'est vrai.
Quand il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de connaissance du Christ. Seule l'Église peut me faire connaître le Christ. En poursuivant un peu l'analogie, Marie, elle est le Verbe, elle n'est pas le Verbe de Dieu, c'est le Christ.
C'est le Christ, oui.
Mais elle est le Verbe du Christ, c'est-à-dire elle fait connaître Marie, qui, je disais tout à l'heure, toute l'Église est concentrée en elle au calvaire. Donc, en quelque manière, c'est Marie qui est le modèle de celle qui fait connaître le Christ. Dans le mariage, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pour ça. Dans le mariage, c'est une image, petite image, reflet de la Sainte Trinité. L'homme, c'est celui qui se donne. Et de fait, c'est lui qui est à l'initiative, il est au principe. Principe, ça ne veut pas dire qu'il domine, ça veut dire qu'il est au commencement.
À la source.
C'est lui, de fait, qui a l'initiative du don. C'est sa mission. Elle accueille, elle reçoit. Mais elle reçoit, non pas pour se glorifier elle-même, elle reçoit pour manifester le don de son époux. Alors, vous allez comprendre très facilement, quand l'épouse porte un collier de perles que lui a donné son époux, est-ce qu'elle porte ce collier de perles pour briller elle-même dans un dîner, ou pour sa gloire à elle, ou pour manifester l'amour de son époux pour elle ? Quand elle se parfume d'un parfum exquis que lui a donné son époux, est-ce que ce parfum pour se faire remarquer, ou est-ce qu'elle est parfumée pour manifester combien elle est aimée. Mmh. Et vous voyez, la femme prend toute sa dimension quand elle est aimée. Et c'est pour ça que, d'un côté, l'époux est premier parce que c'est lui qui a l'initiative, mais de l'autre côté, c'est elle qui est première parce que c'est elle qui manifeste et c'est elle qui permet à l'amour de se donner. Donc il faut regarder dans quel ordre on dit les choses. Donc on n'est pas du tout dans un ordre de domination de l'un ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre. On est dans chacun sa mission et sa vocation. Mais c'est très beau de regarder l'épouse comme verbe de l'époux.
Oui. Oui, oui. Vous avez vous donnez de nombreux conseils pour développer la prière, prière personnelle, prière oui. conjugale et prière familiale. Je voudrais quand même que nous nous arrêtions sur ces deux sacrements qui sont pour vous piliers du couple. C'est le oui. sacrement de réconciliation et l'Eucharistie. Oui. Dans quelle mesure ils sont les piliers ?
Piliers, la confession, parce que c'est là que je reçois le pardon de Dieu. Et comment aimer sans se pardonner ? Comment se pardonner si je ne suis pas d'abord pardonné par Dieu lui-même ? C'est-à-dire, il faut que moi-même je sois libéré du péché qui m'entrave, du péché qui m'empêche
oui.
d'aimer. Et donc, je retrouve cette espèce de pureté et cette liberté de l'âme qui me permet à mon tour de pardonner à mon épouse ou à mon époux et qui me permet de retrouver une certaine souplesse dans l'amour. Et la confession me redonne de la souplesse, moi je dirais ça volontiers. Quant à l'Eucharistie, l'Eucharistie c'est vraiment le Christ époux qui se donne à l'épouse, Église épouse, et c'est sur cet autel que le Christ se donne comme l'époux à l'épouse. Et d'ailleurs, les paroles sont fortes. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc il faut faire attention de ne pas sexualiser cette analogie, mais de fait il y a quelque chose qui est très très fort. Le Christ époux se donne. Et il se donne par l'Eucharistie essentiellement. Donc l'Eucharistie, elle renouvelle en moi cette capacité de don, cette capacité de... Et Saint Jean-Paul II écrivait, il faut que nous devenions des hommes et des femmes eucharistiques. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire capable de se laisser aimer justement, capable de se livrer.
Comme le Christ sur la croix.
Comme le Christ sur la croix. Et quand je regarde l'agonie de Saint Jean-Paul II à la fin... Il a manifesté l'amour en se laissant regarder, en se laissant dans sa vulnérabilité, dans sa pauvreté extrême, dans sa fragilité extrême. Il a été exposé. Et je dis toujours aux époux, est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose ? Et l'Eucharistie, c'est l'amour exposé jusqu'à se transformer en nourriture. Ça, c'est fou quand on y pense.
Oui, c'est fou.
Et donc, l'Eucharistie permet aux époux de retrouver, de nourrir cette faculté de s'exposer à l'autre. Et c'est une nourriture de vie qui me permet de vivre le Christ, au sens fort, vivre le Christ, en s'exposant. C'est dangereux de s'exposer, hein, parce que on en mourra.
Oui.
mais c'est une mort glorieuse, parce que c'est la mort d'amour.
Oui. Et vous dites dans votre ouvrage, le même sang coulera dans vos veines.
Ah, ben par l'Eucharistie, oui, ça. Oui. C'est fou. Quand nous buvons à la même coupe, quand nous buvons au sang, le précieux sang du Christ, c'est ce sang qui coule dans nos veines, de sorte que je communie avec mon frère ou avec mon époux, mon épouse, et nous sommes liés par le sang qui coule dans nos veines, qui est le sang du Christ. Nous sommes plus liés par ce lien d'Eucharistie que par les liens du sang humain. Ça, c'est fort.
Donc ça renforce la communion.
Ça renforce la communion, exactement.
Oui.
Exactement.
Il est déjà temps de nous quitter. Dieu, merci beaucoup, Père François Poitet. Je vous rappelle le titre de votre livre, puisque vous avez décidé de vous aimer, conseil pour les premières années de mariage, et plus, je dirais quand même,
plus, hein, oui.
Aux éditions MAM. Merci d'être passé à Radio Présence.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.